Bonjour, soyez les bienvenus en ce lieu. Que le Seigneur, cet après-midi, puisse encore nous conduire, nous accompagner dans nos réflexions, dans nos partages. Merci pour ce temps de louange. Le message de cet après-midi que j'aimerais partager avec vous, c'est donc sur notre Père que nous venons de lire, que nous avons pris l'habitude de répéter ensemble, de l'exprimer ensemble à la fin de nos rencontres. Donc ici, Matthieu relate un épisode qui fait partie du Sermon sur la montagne. Et la Luc le place dans le contexte d'un enseignement sur la prière demandé par un de ses disciples. Le disciple dit, mais comment devons-nous prier ? Enseigne-nous à prier. Alors, c'est sûrement la prière la plus répandue dans le monde. Donc, elle a fait son chemin, hein, cette prière. Alors, est-ce que cela veut dire que les disciples ne savaient pas prier ? Ou peut-être qu'ils priaient mal, de façon maladroite, ou peut-être de façon intéressée, dirais-je, de façon malhonnête ? Et à qui s'adressait-il ? Et pourquoi ? Et comment ? Donc là, Jésus va leur donner un modèle, hein, il va nous donner un modèle qui nous sert encore aujourd'hui, qui peut nous servir, en fait, pour les éclairer, pour les amener à l'essentiel, pour les amener à la source de la communication avec Dieu, Dieu créateur, Dieu souverain. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, nous avons partagé ensemble sur la prière. Et là, on va donc se recentrer sur le Notre Père, sur ce modèle. Voyons avant tout ce que Jésus pense de leur prière. Matthieu, chapitre 6, verset 5, Jésus s'adresse à eux en leur disant, « Mais quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, de redites, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Jésus montre à quel point, pour certains, pas pour tous, hein, leur prière est hypocrite. Elle est égoïste, elle est hautaine et pleine d'orgueil, dénuée de sens et de fondements sincères, gorgée de veines redites. Jésus leur dit « Stop, vous n'avez pas compris ce que c'est que la prière. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est bien la première phrase. La première des choses, c'est que notre prière, elle ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre qu'à Dieu. Je prie Dieu. Je prie Dieu pourquoi ? Parce qu'elle s'adresse au Dieu souverain, au Dieu créateur, au Dieu digne de louange, et bien loin de toute considération mondaine et terrestre. Il est maître et créateur de tout ce qui s'y trouve. Et il n'est pas inaccessible. Parfois, pour s'adresser à, si on prend un exemple dans notre vie professionnelle, parfois on ne peut pas s'adresser directement au grand patron. Moi, je ne peux pas m'adresser à mon big boss. Il faut que tu passes par la hiérarchie, qui peut-être passera par sa hiérarchie, qui peut-être passera par sa hiérarchie, et qui peut-être que ton message ne parviendra jamais au président directeur général. ou peut-être pas sous la forme de ce que tu voulais exprimer parce que tu n'es pas en direct. Hein, pour ceux qui ont fait des centres de vacances, hein, colonies de vacances, où j'étais moi-même animateur, et vous savez, on appelait ça le téléphone arabe, ou le téléphone de ce que vous voulez. Donc on disait, on préparait une phrase, on murmurait à l'oreille du voisin, qui lui essayait bien, tant bien que mal, parce qu'on n'est pas là de répéter, de comprendre, enfin, d'enregistrer, devait le répéter, ainsi de suite, et quand la phrase revenait au point de départ, on partait de la terre est ronde, et ainsi de suite, et ça revenait que... une histoire abracadabrantesque. Vous n'avez plus rien à voir. Déformé. Pour en revenir à notre sujet, on s'adresse à Dieu directement. Dieu de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, qui perce et qui connaît nos pensées les plus intimes. Il dit que même avant que nous exprimions, il sait de quoi nous allons parler. Et s'adresser à Dieu, c'est le reconnaître comme saint. Que ton nom soit sanctifié. Dieu est saint, trois fois saint, est-il dit. Entièrement différent de ce qui caractérise l'homme. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. » Et puis dans Jean, chapitre 17 aussi, verset 26, « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. » Et dans Psaume, chapitre 9, verset 10, « Tu ne délaisses jamais, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. » Si je veux discuter avec toi, je m'adresse à toi. Je ne te parle pas par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Voilà, s'adresser à Dieu, notre Père, notre Dieu trois fois saint. Ensuite, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La deuxième phrase, on s'adresse toujours à Dieu. Toujours à lui. La louange continue, on est dans la louange, on est dans la reconnaissance d'un règne saint, éternel, propre, digne, sans péché, qui n'existe pas ici-bas. Ici-bas, c'est plutôt péché et mort éternelle. Le chrétien aspire à ce que le Seigneur règne enfin pleinement ici-bas, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. En fait, on aspire à ce que tous soient sauvés, parce que Dieu veut que tous soient sauvés. Jésus a dû venir pour nous sanctifier et il reviendra pour établir son règne avec ceux, bien sûr, qui auront cru en lui. Il est dit que Dieu use de patience afin qu'aucun ne périsse et que nous ayons tous la vie éternelle. Mais encore faut-il le vouloir. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est renoncer à son indépendance. Pas facile pour la plupart, parce que bien souvent, c'est moi qui trône dans ma vie. Je suis d'abord mon roi et maître. Non, là, c'est Dieu. Car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint, à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. Romains 14, 17. Et puis un peu avant, il y a cette recommandation, hein, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Pourquoi ? Pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La troisième troisième pensée, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Le pain et l'eau sont les symboles des aliments hein, et de la boisson. Hein. Là, c'est la base de l'alimentation, le pain et l'eau. En Palestine, le pain constituait le plat de résistance et ça représentait toute la nourriture. Je prie pour que Dieu m'accorde la nourriture pour ce jour et jour après jour. Et ça me fait penser à la manne dans le désert. Quand le peuple de Dieu est sorti d'Égypte, est entré dans le désert, qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va manger? Grande question. Le Seigneur a nourri son peuple, mais un jour à la fois, interdiction de faire des provisions qui, de toute façon, pourrissaient. Donc là, c'est vraiment une confiance totale. Je suis dans le désert, je n'ai plus rien, Dieu me donne à manger jour après jour. Nous reconnaissons au travers de ça que Dieu est capable de nous donner notre pain du jour. Nous avons vu aussi hein, l'amour de Jésus envers la foule qu'il a nourrie une fois et deux fois, avec trois fois rien. Quelques pains, quelques poissons, 5 000 hommes. Hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et il l'a fait. Il a pris, il a multiplié. Ne pourrait-il pas nous donner notre pain quotidien, jour après jour, à nous qui lui demandons? Car il nous est dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa subsistance. Mais ma nourriture n'est pas seulement physique, hein, elle est aussi spirituelle. Hein. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4. Et puis il est écrit aussi que Jésus est le pain de vie, de notre vie, de ma vie. Il est ma nourriture spirituelle dont j'ai besoin pour vivre ma vie chrétienne, pour grandir. Hein, on peut faire le parallèle entre les deux. La nourriture m'aide à grandir, à fortifier mon corps. Et la nourriture spirituelle que je vais chercher dans ma relation avec Dieu, dans la prière, dans la lecture de sa parole, m'aide à grandir aussi spirituellement pour m'épanouir auprès de lui. Lors de la Sainte Cène, hein, Jésus représente le pain comme étant son corps qui a été rompu, offert. Jésus est le pain de vie. Et la quatrième phrase, c'est « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ah, au début, c'était sympa la prière. Notre Dieu, notre Père, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, super. Mais par contre, la deuxième partie de la phrase, parfois ça peut nous déranger. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Sauf bien sûr si jamais personne ne vous a offensé. Un jour, on se penchera peut-être sur ce que c'est que l'offense. Hein, une parole déplacée, une accusation, un reproche. Une critique, une mauvaise action, voilà, c'est ça, ceux qui nous ont offensés. En fait, ceux qui nous ont fait du mal, quoi. Ceux qui nous ont pas aimés, ceux qui nous ont pas reconnus. Ben là, ça se complique. Et pourtant, quand on relit bien la phrase, clairement, simplement, on dit, ben, c'est normal. Le Seigneur me pardonne, parce que moi aussi je l'ai offensé. Donc celui qui m'a offensé, je le pardonne aussi. Je ne me mets pas en position de Dieu envers lui, mais je me mets dans la position de quelqu'un qui a reçu, donc quelqu'un qui va donner. Parce que pardonne-nous nos offenses, Oui, on oublie que nous avons aussi offensé peut-être les autres. Ce n'est pas toujours les autres qui sont offenseurs. Parfois, nous aussi, on peut offenser. Et on peut aussi offenser Dieu par nos actions, par nos pensées. Mais après tout, pour beaucoup de nos contemporains, je pense ce que je veux, je dis ce que je veux et je fais ce que je veux. Et toi, tais-toi. Et si tu n'es pas content, tant pis. C'est parfois au détriment des autres que j'avance. Tromperie, mensonge, abus. Jésus m'enseigne à ne pas faire de tort aux autres. Je dois vivre dans le respect mutuel. Et autant que cela ne tienne que ça vienne de moi. Cette phrase, elle est construite comme une réponse à une condition. Puisque Dieu me pardonne, je dois pardonner aussi. Il est dit, nous pardonnons. Il n'a pas dit, essayez de pardonner. Nous pardonnons. Dieu pardonne, je pardonne. Il n'a pas dit, peut-être que Dieu va vous pardonner. Peut-être. Ça va dépendre du degré. Non. Dieu pardonne ou ne pardonne pas. Dieu c'est oui ou Dieu c'est non. C'est pas peut-être. Mais nous, quand nous pardonnons à quelqu'un, c'est pas peut-être, c'est oui. Bon, déjà, c'est surtout pas non, mais c'est oui. Et il est dit que même si ton frère vient te voir, là, il est question de ton frère. Donc, là, on est quand même dans le même niveau. C'est pas un étranger qui vient, et encore, ce serait la même chose. Mais là, il montre que au même niveau, quelqu'un de votre famille spirituelle, on va dire. Ou quelqu'un de la famille. Quelqu'un de la famille spirituelle, quelqu'un qui croit le même Dieu que toi. Quelqu'un qui connaît la même Bible, qui prie les mêmes choses. Il vient te voir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. À combien de fois on s'arrête en disant c'est la foi de trop ? Et vous connaissez la réponse de Jésus à la question d'un de ses disciples. Combien de fois dois-je pardonner mon frère, même s'il venait me voir pour le même sujet ? Donc là, Jésus, il va dans l'extrême. Ton frère, pour le même sujet, vient te voir. Est-ce que le disciple dit, est-ce que je dois lui pardonner, allez, sept fois, s'il vient me voir sept fois ? En disant, c'est vraiment le maximum, quoi. Là, après, j'en peux plus. Jésus dit, ben non, jusqu'à 70 fois, 7 fois, 490 fois. Mais Jésus, au travers de ça, il ne veut pas montrer qu'il y a un compteur. Tant que je ne suis pas 490, tu peux toujours venir. Mais il a voulu aller au-delà de notre pensée humaine. Il aurait pu dire 100 fois. Là, il dit, ben non, 490 fois. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de petit tort, il n'y a pas de petit pardon, il n'y a que le pardon. Le pardon. Le pardon sincère. Parce qu'à une repentance sincère, il y a pardon sincère. Si moi-même je ne suis pas sincère lorsque je demande pardon à Dieu, je ne serai pas pardonné. Parce que je ne suis pas sincère. Et moi-même, puisqu'on reste dans le nombre, combien de fois ai-je demandé à Dieu de me pardonner pour la même faute que je commets ? Ou je ne commets qu'un péché ? La question ouverte, j'attends pas de réponse, c'est que chacun s'examine. Est-ce que, si Dieu devait tenir des comptes envers nous ? Seigneur, j'ai encore déraillé. Et là, Dieu te dit, c'est la foi de trop. Vous imaginez un peu ? Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu pardonne celui qui vient le voir sincèrement. Alors si mon frère vient me voir, ben 490 fois, oui, je lui pardonne. Quand Dieu pardonne, il efface. Le tableau, on écrit, quand Dieu efface, c'est fini. C'est comme un ordinateur, hein, on a écrit quelque chose, on efface, hop, on va à la poubelle, et on vide la poubelle. Et après, il n'y a plus rien. Enfin, je parle de l'ordinateur, mais c'est peut-être pas une bonne image, parce qu'on est capable d'aller rechercher même ce qui a été effacé. Donc là, au moins, je prends un tableau, c'est écrit, j'efface, il n'y a plus rien. C'est pas parti derrière. Donc ça, c'est le meilleur exemple. Mais en fait, l'exemple, c'est ça. C'est quand Dieu pardonne, il efface. Et moi, quand je pardonne, je dois effacer. Ne suis-je pas à l'image de Dieu ? Matthieu 6, 14, 15, « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Vous vous souvenez de la parabole sur la paille et la poutre, hein ? Je vois le petit défaut qui est caché l'autre. Et moi, je suis aveugle. Et pourrait te dire, ouais, enfin, toi, tu vois ça et moi, je vois ça. Hein. Donc, voilà l'histoire de la paille et de la poutre. Hein. Parfois, on peut avoir le jugement facile. Mais il faut déjà se remettre en question. Alors après, phrase 5. Alors justement, elle est intéressante, cette version. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alors je dirais quelque part, il faut vite oublier cette traduction. D'ailleurs, quand tout à l'heure nous allons le dire ensemble, c'est pas la même chose qui a été écrite. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, si je comprends bien, donc on s'adresse toujours à Dieu, hein, n'est-ce pas, hein ? On est d'accord. Dieu ne m'induit pas en tentation, mais délivre-moi du mal. Ne m'induit pas. Elle est dérangeante, cette notion de m'induire. Comme si Dieu, il était là en disant, tiens, regarde, tu sais, il met un petit péché devant nous. Tu prends ou tu prends pas ? Ça veut dire que Dieu nous tenterait ? Est-ce qu'il m'inciterait au péché, hein, je vais t'induire en tentation. Je vais créer ta tentation. Je la mets devant ton nez, devant tes yeux. Alors, comme si cela ne suffisait pas d'être tenté par énormément de choses dans le monde, par nous-mêmes, par Satan, par tout ce qui se passe autour de nous, il faudrait aussi et encore que Dieu tende la jambe pour que je tombe par terre. Là, moi j'ai un problème. Ça veut dire que je ne m'adresse plus à un Dieu saint, à un Dieu sans péché, à un Dieu souverain. Si je crois cela, que Dieu est capable de me tenter, ben je ne connais pas Dieu, je ne connais plus ce Dieu d'amour qui veut m'amener à lui, qui veut m'amener à mon salut, à ne pas me perdre. Mais au contraire, à me délivrer, à me sauver. C'est pour ça qu'il est bon de lire la Bible dans sa plus grande globalité et pas d'extraire un verset par-ci, par-là, en faire une théorie, voire une théologie, et se dire, voilà la vérité, voilà Dieu. Dieu m'induit en erreur, Dieu m'induit en tentation. Dieu me tente pour me faire tomber. Mais Dieu est sans péché. Hein. Donc là, il y a des choses qui ne vont pas. Jacques chapitre 1er. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Je mets devant toi une belle pomme, empoisonnée, libre à toi de la prendre ou de ne pas la prendre. Moi, je ne vais pas la mettre dans ta bouche, c'est toi qui vas la prendre. Donc là, tu t'approches de la tentation. Au début, tu la regardes avec les yeux, après tu la saisis et tu la consommes. Et vous connaissez la suite, si elle est empoisonnée, voilà. Voilà l'image. On est tenté. Il y a des choses qui nous tentent. Des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, mais on y va quand même. Ou on n'y va pas. Dieu donne la vie éternelle et non la mort. Dieu n'est pas responsable de nos tentations. Un Corinthien, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Alors moi, je comprends mieux ce verset-là, qui a un petit problème de traduction. D'ailleurs, il y a beaucoup de traductions qui ont été revues par rapport à cela. Parce que le chrétien ne comprenait pas bien cette parole. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et non Dieu. Et Dieu nous assure qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et il se rappellera à nous en disant, mais il y a un moyen de s'en sortir. C'est adresse-toi à moi. Ou sinon, fais ce que tu as envie de faire. Il ne faut pas confondre les tentations, parce que là on parle bien de tentations, hein, et les épreuves à laquelle Dieu peut nous confronter pour tester notre foi. On parle d'épreuves, on ne parle pas de tentations pour tomber. Donc je disais, les différentes traductions ne donnent pas toujours une bonne signification au sujet de la tentation. Certaines disent « induire » ou « conduire » ne nous conduit pas. Alors ça, je trouve que c'est encore pire, quoi. Ne nous conduit pas, hein. On est dans la voiture avec Dieu, puis lui, il nous conduit dans la tentation, il nous conduit dans le mur. Bon, c'est lui qui nous y emmène. D'autres plus subtils, ne nous soumet pas à la tentation. Ah, c'est pas terrible non plus, hein. Soumettre. Et enfin, celle qui utilise, ne nous laisse pas entrer en tentation. Ne nous laisse pas nous abandonner à la tentation. Là, ça se rapproche davantage de la pensée de Dieu, et là, c'est cohérent. Seigneur, ne nous laisse pas entrer dans toutes ces sources de tentations. Ne m'abandonne pas à ma faiblesse devant ces tentations si nombreuses. Délivre-moi de l'orgueil, de la jalousie, des idoles, et ainsi de suite. Jésus a vaincu le péché sur la mort. Il a vaincu, il est ressuscité, il est vainqueur. Dieu ne va pas retirer la tentation devant nous. Nous vivons dans ce monde, nous ne sommes pas du monde, mais nous vivons dans ce monde, avec tout ce que cela représente. À nous de ne pas nous laisser abandonner à la tentation. Car c'est à toi qu'appartiennent, on revient à notre Dieu, hein. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Dieu était et il demeurera hier, aujourd'hui et éternellement, et il restera le même, fidèle jusqu'au bout. tout lui appartient et tout lui reviendra. Je ne possède rien ici-bas, rien qui ne durera éternellement. Tout est périssable. Tout est périssable. Cette prière énoncée par Jésus respire une attente d'un nouveau monde où le mal sera définitivement vaincu, hein, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. On aspire au retour de Jésus. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur cette prière. Parfois, on la survole. Parfois, on la comprend pas bien, hein, notamment sur ce fameux 13-là. Donc, attention à la façon dont nous pensons comprendre la parole de Dieu. Comprendre la parole de Dieu, c'est déjà de savoir qui est Dieu. Dieu ne peut pas vouloir le mal, il a créé le bien. Mais cette parole, elle est pas un laisser-passer, hein. Hein, comme on disait, les veines redites, parce qu'on peut la réciter toute la journée, du matin au soir. Au début, peut-être qu'on va se l'approprier, et après, ça sera que de la répétition. Le mot, c'est se l'approprier. Mon Dieu, je m'adresse à toi, qui es saint, qui es souverain. Elle n'est pas un passe-partout, c'est pas un passeport, c'est pas un passe-droit, c'est pas un distributeur quelconque, on en a parlé, développé ça la dernière fois. C'est pas parce que je vais répéter ça que tout va bien, tout va bien. Jésus nous montre, enfin pour conclure, Jésus nous montre les étapes à ne pas oublier dans nos prières. Voilà. C'est un modèle d'étape. C'est d'abord, je loue mon Père, je m'adresse à lui et à lui seul. Je commence à dire, Seigneur, bon, j'ai problème et tout ça, viens mon secours. Oui, d'accord. Mais d'abord, ne pas oublier à qui je m'adresse. Au Dieu créateur, je le loue. Et puis, j'intercède, je confesse, je suis dans l'action. Commence pas par demander. Quand on s'adresse à quelqu'un, on dit « Bonjour !» Voilà, je m'adresse à mon Dieu. Je reconnais déjà qu'il est mon Dieu. C'est pas « Il y a quelqu'un ? Quelqu'un m'entend ? Dieu, où es-tu ?» Non, c'est mon Père, parce qu'il est question de notre Père. Dieu, notre Papa. Dans la notion de Père, il y a la notion de Créateur. Je ne vais pas faire de polémique, hein, mais faut quand même un papa. Hein. Voilà, Dieu est notre Père. D'abord, on s'adresse à lui. Et après, relisez bien, prenez le temps, s'il vous plaît, ce soir, dans votre chambre, comme il est dit, va dans ta chambre, dans le lieu secret, où là tu peux, il n'y a personne qui t'écoute, là tu peux même à voix haute, mon Père. Dieu, mon Dieu, toi qui es aux cieux, toi qui as tout créé, que ton règne vienne. J'ai envie que, voilà, tout le monde soit sauvé. Et vous connaissez la suite, hein, je ne vais pas vous refaire la lecture. Mais s'approprier cette prière, comme un exemple de savoir comment ça se passe. Pourquoi Jésus l'a montré ça à ses disciples ? Il leur dit, voilà, ne soyez pas comme les hypocrites, ceux qui aiment bien prier tout haut, tout fort, des belles prières. On fait, oh ! Moi, des fois, ça m'est arrivé d'aller dans des assemblées où il y a des personnes qui prient. Je suis presque admiratif en me disant, moi, je ne sais pas si je prie comme ça, en fait. Mais non. Non, je dis pas que cette personne, elle est hypocrite, hein, ça n'a rien à voir, hein. Mais voilà, faut revenir à l'essentiel de ce qu'est la prière. Que Dieu bénisse sa parole et je prends la place. Madame la Présidente.